Mais d'autres fois, au contraire, Odette était sur le point de partir en voyage. C'était après quelques petites querelles dont il choisissait le prétexte qu'il se résolvait à ne pas lui écrire et à ne pas la revoir avant son retour, donnant ainsi les apparences et demandant le bénéfice d'une grande brouille, qu'elle croirait peut-être définitive, à une séparation dont la plus longue part était inévitable du fait du voyage et qu'il faisait commencer seulement un peu plus tôt. Déjà, il se figurait Odette inquiète, affligée de n'avoir reçu ni visite ni lettre, et cette image, en calmant sa jalousie, lui rendait facile de se déshabituer de la voir. Sans doute par moments, tout au bout de son esprit ou sa résolution la refoulait, grâce à toute la longueur interposée de 3 semaines de séparation acceptée, c'était avec plaisir qu'il considérait l'idée qu'il reverrait Odette à son retour. Mais c'était aussi avec si peu d'impatience qu'il commençait à se demander s'il ne doublerait pas volontairement la durée d'une abstinence si facile. Elle ne datait encore que de 3 jours, temps beaucoup moins long que celui qu'il avait souvent passé en ne voyant pas Odette, et sans la voir comme maintenant préméditée. Et pourtant, voici qu'une légère contrariété, ou un malaise physique, en l'incitant à considérer le moment présent comme un moment exceptionnel, en dehors de la règle où la sagesse même admettrait d'accueillir l'apaisement qu'apporte un plaisir et de donner congé jusqu'à la reprise utile de l'effort à la volonté, suspendait l'action de celle-ci qui cessait d'exercer sa compression. Ou, moins que cela, le souvenir d'un renseignement qu'il avait oublié de demander à Odette. Si elle avait décidé la couleur dont elle voulait faire repeindre sa voiture, ou pour une certaine valeur de bourse, si c'était des actions ordinaires ou privilégiées qu'elle désirait acquérir. C'était très joli de lui montrer qu'il pouvait rester sans la voir, mais si après ça la peinture était à refaire, ou si les actions ne donnaient pas de dividendes, il serait bien avancé. Voici que comme un caoutchouc tendu qu'on lâche, ou comme l'air dans une machine pneumatique qu'on en trouve, l'idée de la revoir, des lointains où elle était maintenue, revenait d'un bond dans le champ du présent et des possibilités immédiates. Elle y revenait sans plus trouver de résistance, et d'ailleurs si irrésistible que Swann avait eu bien moins de peine à sentir s'approcher un à un les 15 jours qu'il devait rester séparé d'Odette qu'il n'en avait à attendre les 10 minutes que son cocher mettait pour atteler la voiture qui allait l'emmener chez elle, et qu'il passait dans des transports d'impatience et de joie, où il ressaisissait 1000 fois pour lui prodiguer sa tendresse, cette idée de la retrouver, qui, par un retour si brusque, au moment où il la croyait si loin, était de nouveau près de lui dans sa plus proche conscience. C'est qu'elle ne trouvait plus pour lui faire obstacle le désir de chercher sans plus tarder à lui résister, qui n'existait plus chez Swann depuis que, s'étant prouvé à lui-même, il le croyait du moins, qu'il en était si aisément capable, il ne voyait plus aucun inconvénient à ajourner un essai de séparation qu'il était certain maintenant de mettre à exécution dès qu'il le voudrait. C'est aussi que cette idée de la revoir revenait parée pour lui d'une nouveauté, d'une séduction, douée d'une virulence que l'habitude avait émoussée, mais qui s'était retrempée dans cette privation non de 3 jours mais de 15, car la durée d'un renoncement doit se calculer par anticipation sur le terme assigné. Et de ce qui jusque-là eût été un plaisir attendu qu'on sacrifie aisément, avait fait un bonheur inespéré contre lequel on est sans force. C'est enfin qu'elle y revenait, embellie par l'ignorance où était Swann de ce qu'Odette avait pu penser, faire peut-être en voyant qu'il ne lui avait pas donné signe de vie. Si bien que ce qu'il allait trouver, c'était la révélation passionnante d'une Odette presque inconnue. Mais elle, de même qu'elle avait cru que son refus d'argent n'était qu'une feinte, ne voyait qu'un prétexte dans le renseignement que Swann venait de lui demander sur la voiture à repeindre ou la valeur à acheter. Car elle ne reconstituait pas les diverses phases de ces crises qu'il traversait. Et dans l'idée qu'elle s'en faisait, elle omettait d'en comprendre le mécanisme, ne croyant qu'à ce qu'elle connaissait d'avance, à la nécessaire, à l'infaillible et toujours identique terminaison. Idée incomplète, d'autant plus profonde peut-être, si on la jugeait du point de vue de Swann, qui eût sans doute trouvé qu'il était incompris d'Odette. Comme un morphinomane ou un tuberculeux, persuadé qu'ils ont été arrêtés, l'un par un événement extérieur au moment où il allait se délivrer de son habitude invétérée, l'autre par une indisposition accidentelle au moment où il allait être enfin rétabli, se sent incompris du médecin, qui n'attache pas la même importance qu'eux à ses prétendues contingences, simple déguisement, selon lui, revêtu, pour redevenir sensible à ces malades par le vice et l'état morbide qui, en réalité, n'ont pas cessé de peser incurablement sur eux, tandis qu'ils berçaient des rêves de sagesse ou de guérison. Et de fait, l'amour de Swann en était arrivé à ce degré où le médecin, et dans certaines affections, le chirurgien le plus audacieux, se demande si priver un malade de son vice ou lui ôter son mal est encore raisonnable ou même possible. Certes, l'étendue de cet amour, Swann n'en avait pas une conscience directe. Quand il cherchait à le mesurer, il lui arrivait parfois qu'il semblât diminué, presque réduit à rien. Par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avait inspiré avant qu'il aimât Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenait à certains jours. Vraiment, il y a progrès sensible, se disait-il le lendemain. À voir exactement les choses, je n'avais presque aucun plaisir hier à être dans son lit. C'est curieux, je la trouvais même laide. Et certes, il était sincère, mais son amour s'étendait bien au-delà des régions du désir physique. La personne même d'Odette n'y tenait plus une grande place. Quand du regard il rencontrait sur la table la photographie d'Odette, ou quand elle venait le voir, il avait peine à identifier la figure de chair ou de Bristol avec le trouble douloureux et constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement. C'est elle ? Comme si tout d'un coup, on nous montrait extérioriser devant nous une de nos maladies et que nous ne la trouvions pas ressemblant à ce que nous souffrons. Elle. Il essayait de se demander ce que c'était. Car c'est une ressemblance de l'amour et de la mort, plutôt que celle si vague que l'on redit toujours de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans lui détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Par cet amour, Swann avait été tellement détaché de tous les intérêts que quand par hasard il retournait dans le monde en se disant que ses relations, comme une monture élégante qu'elle n'aurait pas d'ailleurs su estimer très exactement, pouvaient lui rendre à lui-même un peu de prix aux yeux d'Odette, et ça aurait peut-être été vrai en effet si elle n'avait été avilie par cet amour même qui pour Odette dépréciait toutes les choses qu'il touchait par le fait qu'il semblait les proclamer moins précieuses. Il y éprouvait, à côté de la détresse d'être dans des lieux au milieu de gens qu'elle ne connaissait pas, le plaisir désintéressé qu'il aurait pris à un roman ou à un tableau où sont peints les divertissements d'une classe oisive. Comme chez lui, il se complaisait à considérer le fonctionnement de sa vie domestique, l'élégance de sa garde-robe et de sa livrée, le bon placement de ses valeurs, de la même façon qu'à lire dans Saint-Simon, qui était un de ses auteurs favoris, la mécanique des journées, le menu des repas de Madame de Maintenon, ou l'avarice avisée et le grand train de Lully. Et dans la faible mesure où ce détachement n'était pas absolu, la raison de ce plaisir nouveau que goûtait Swann, c'était de pouvoir émigrer un moment dans les rares parties de lui-même restées presque étrangères à son amour, à son chagrin. À cet égard, cette personnalité que lui attribuait ma grand-tante, de fils Swann, distincte de sa personnalité plus individuelle de Charles Swann, était celle où il se plaisait maintenant le mieux. Un jour que pour l'anniversaire de la princesse de Parme, et parce qu'elle pouvait souvent être indirectement agréable à Odette en lui faisant avoir des places pour des galas, des jubilés, il avait voulu lui envoyer des fruits. Ne sachant pas trop comment les commander, il en avait chargé une cousine de sa mère, qui, ravie de faire une commission pour lui, lui avait écrit en lui rendant compte qu'elle n'avait pas pris tous les fruits au même endroit, mais les raisins chez Crapote, dont c'est la spécialité, les fraises chez Joré, les poires chez Chevet, où elles étaient plus belles, etc. Chaque fruit visité et examiné un par un par mois. Et en effet, par les remerciements de la princesse, il avait pu juger du parfum des fraises et du moelleux des poires. Mais surtout, le chaque fruit visité et examiné un par un par mois avait été un apaisement à sa souffrance, en emmenant sa conscience dans une région où il se rendait rarement, bien qu'elle lui appartint comme héritier d'une famille de riches et bonnes bourgeoisies, où s'était conservé héréditairement, tout prêt à être mis à son service dès qu'il le souhaitait, la connaissance des bonnes adresses et l'art de savoir bien faire une commande. Certes, il avait trop longtemps oublié qu'il était le fils Swann pour ne pas ressentir, quand il le redevenait un moment, un plaisir plus vif que ceux qu'il eût pu éprouver le reste du temps et sur lesquels il était blasé. Et si l'amabilité des bourgeois, pour lesquels il restait surtout ceux-là, était moins vive que celle de l'aristocratie, mais plus flatteuse d'ailleurs, car chez eux du moins, elle ne se sépare jamais de la considération. Une lettre d'altesse, quelques divertissements princiers qu'elle lui proposa, ne pouvaient lui être aussi agréables que celles qui lui demandaient d'être témoin ou seulement d'assister à un mariage dans la famille de vieux amis de ses parents, dont les uns avaient continué à le voir, comme mon grand-père, qui l'année précédente l'avait invité au mariage de ma mère, et dont certains autres le connaissaient personnellement à peine, mais se croyaient des devoirs de politesse envers le fils, envers le digne successeur de feu M. Swann. Mais par les intimités déjà anciennes qu'il avait parmi eux, les gens du monde, dans une certaine mesure, faisaient aussi partie de sa maison, de son domestique et de sa famille. Il se sentait, à considérer ses brillantes amitiés, le même appui hors de lui-même, le même confort qu'à regarder les belles terres, la belle argenterie, le beau linge de table qui lui venait des siens. Et la pensée que s'il tombait chez lui frappé d'une attaque, ce serait tout naturellement le duc de Chartres, le prince de Reuss, le duc de Luxembourg et le baron de Charlus que son valet de chambre courait chercher, lui apportait la même consolation qu'à notre vieille Françoise de savoir qu'elle serait ensevelie dans ses draps fins, à elle, marquée, non reprisée, ou si finement que cela ne donnait qu'une plus haute idée du soin de l'ouvrière, linceul de l'image fréquente duquel elle tirait une certaine satisfaction, sinon du bien-être, ou du moins d'amour-propre. Mais surtout, comme dans toutes celles de ses actions et de ses pensées qui se rapportaient à Odette, Swann était constamment dominé et dirigé par le sentiment inavoué qu'il ne lui était peut-être pas moins cher, mais moins agréable à voir que quiconque, que le plus ennuyeux fidèle des Verdurins. Quand il se reportait à un monde pour qu'il était l'homme exquis par excellence, qu'on faisait tout pour attirer, qu'on se désolait de ne pas voir, il recommençait à croire à l'existence d'une vie plus heureuse, presque à en éprouver l'appétit, comme il arrive à un malade alité depuis des mois à la diète et qui aperçoit dans un journal le menu d'un déjeuner officiel ou l'annonce d'une croisière en Sicile. S'il était obligé de donner des excuses aux gens du monde pour ne pas leur faire de visite, c'était de lui en faire qu'il cherchait à s'excuser auprès d'Odette. Encore les payait-il ? Se demandant à la fin du mois, pour peu qu'il eût un peu abusé de sa patience et fût allé souvent la voir, si c'était assez de lui envoyer 4 000 francs. Et pour chacune, trouvait un prétexte, un présent à lui apporter, un renseignement dont elle avait besoin. Monsieur de Charlus, qu'il avait rencontré allant chez elle et qui avait exigé qu'il l'accompagnât. Et à défaut d'aucun, il priait Monsieur de Charlus de courir chez elle, de lui dire, comme spontanément, au cours de la conversation, qu'il se rappelait avoir à parler à Swann, qu'elle voulut bien lui faire demander de passer tout de suite chez elle. Mais le plus souvent, Swann attendait en vain, et M. de Charlus lui disait le soir que son moyen n'avait pas réussi. de sorte que si elle faisait maintenant de fréquentes absences, même à Paris, quand elle y restait, elle le voyait peu, et elle qui, quand elle l'aimait, lui disait « Je suis toujours libre, et qu'est-ce que l'opinion des autres peut me faire ?» Maintenant, chaque fois qu'il voulait la voir, elle invoquait les convenances ou prétextait des occupations. Quand il parlait d'aller à une fête de charité, à un vernissage, à une première où elle serait, elle lui disait qu'il voulait afficher leur liaison, qu'il la traitait comme une fille. C'est au point que pour tâcher de n'être pas partout privé de la rencontrer, Swann, qui savait qu'elle connaissait et affectionnait beaucoup mon grand-oncle Adolphe, dont il avait été lui-même l'ami, alla le voir un jour dans son petit appartement de la rue de Bellechasse, afin de lui demander d'user de son influence sur Odette. Comme elle prenait toujours, quand elle parlait à Swann de mon oncle, des airs poétiques, disant « Ah lui, ce n'est pas comme toi, c'est une si belle chose, si grande, si jolie, que son amitié pour moi. Ce n'est pas lui qui me considérerait assez peu pour pouvoir se montrer avec moi dans tous les lieux publics. » Swann fut embarrassée et ne savait pas à quel ton il devait se hausser pour parler d'elle à mon oncle. Il posa d'abord l'excellence a priori d'Odette, l'axiome de sa supra-humanité séraphique, la révélation de ses vertus indémontrables et dont la notion ne pouvait dériver de l'expérience. « Je veux parler avec vous. Vous, vous savez quelle femme au-dessus de toutes les femmes, quel être adorable, quel ange est Odette. Mais vous savez ce que c'est que la vie de Paris. Tout le monde ne connaît pas Odette sous le jour où nous la connaissons, vous et moi. » Alors, il y a des gens qui trouvent que je joue un rôle un peu ridicule. Elle ne peut même pas admettre que je la rencontre dehors, au théâtre. Vous, en qui elle a tant de confiance, ne pourriez-vous lui dire quelques mots pour moi? Lui assurer qu'elle exagère le tort qu'un salut de moi lui cause? Mon oncle conseilla à Swann de rester un peu sans voir Odette qui ne l'en aimerait que plus, et à Odette de laisser Swann la retrouver partout où cela lui plairait. Quelques jours après, Odette disait à Swann qu'elle venait d'avoir une déception en voyant que mon oncle était pareil à tous les hommes. Il venait d'essayer de la prendre de force. Elle calma Swann qui, au premier moment, voulait aller provoquer mon oncle. Mais il refusa de lui serrer la main quand il le rencontra. Il regretta d'autant plus cette brouille avec mon oncle Adolphe qu'il avait espéré, s'il l'avait revu quelquefois et avait pu causer en toute confiance avec lui, tâcher de tirer au clair certains bruits relatifs à la vie qu'Odette avait menée autrefois à Nice. Or, mon oncle Adolphe y passait l'hiver, et Swann pensait que c'était même peut-être là qu'il avait connu Odette. Le peu qui avait échappé à quelqu'un devant lui relativement à un homme qui aurait été l'amant d'Odette avait bouleversé Swann. Mais les choses qu'il aurait, avant de les connaître, trouvé le plus affreux d'apprendre et le plus impossible de croire, une fois qu'il les savait, elles étaient incorporées à tout jamais à sa tristesse. Il les admettait. Il n'aurait plus pu comprendre qu'elles n'eussent pas été. Seulement, chacune opérait sur l'idée qu'il se faisait de sa maîtresse une retouche ineffaçable. Il crut même comprendre une fois que cette légèreté des mœurs d'Odette, qu'il n'eût pas soupçonnée, était assez connue, et qu'à Bade et à Nice, quand elle y passait jadis plusieurs mois, elle avait eu une sorte de notoriété galante. Il chercha pour les interroger à se rapprocher de certains viveurs, mais ceux-ci savaient qu'il connaissait Odette, et puis il avait peur de les faire penser de nouveau à elle, de les mettre sur ses traces. Mais lui, à qui jusque-là rien n'aurait pu paraître aussi fastidieux que tout ce qui se rapportait à la vie cosmopolite de Bade ou de Nice, apprenant qu'Odette avait peut-être fait autrefois la fête dans ces villes de plaisir, sans qu'il dût jamais arriver à savoir si c'était seulement pour satisfaire à des besoins d'argent, que grâce à lui elle n'avait plus, ou à des caprices qui pouvaient renaître, maintenant il se penchait avec une angoisse impuissante, aveugle et vertigineuse vers l'abîme sans fond où étaient allées s'engloutir ces années du début du septennat, pendant lesquelles on passait l'hiver sur la promenade des Anglais, l'été sous les tilleuls de Bade, et il leur trouvait une profondeur douloureuse mais magnifique comme celle que leur eût prêtée un poète. Et il eût mis à reconstituer les petits faits de la chronique de la Côte d'Azur d'alors, si elle avait pu l'aider à comprendre quelque chose du sourire ou des regards, pourtant si honnête et si simple, d'Odette, plus de passion que l'esthéticien qui interroge les documents subsistants de la Florence du XVe siècle pour tâcher d'entrer plus avant dans l'âme de la Primavera, de la belle Havane ou de la Vénus de Botticelli. Souvent, sans rien lui dire, il la regardait. Il songeait. Elle lui disait « Comme tu as l'air triste. » Il n'avait pas bien longtemps encore de l'idée qu'elle était une créature bonne, analogue au meilleur qu'il eût connu. Il avait passé à l'idée qu'elle était une femme entretenue. Inversement, il lui était arrivé depuis de revenir de l'Odette de Crécy, peut-être trop connue des fêtards, des hommes à femmes, à ce visage d'une expression parfois si douce, à cette nature si humaine. Il se disait, qu'est-ce que cela veut dire qu'à Nice tout le monde sache qui est Odette de Crécy? Ces réputations-là, même vraies, sont faites avec les idées des autres. Il pensait que cette légende, fût-elle authentique, était extérieure à Odette, n'était pas en elle comme une personnalité irréductible et malfaisante. Que la créature qui avait pu être amenée à mal faire, c'était une femme aux bons yeux, au cœur plein de pitié pour la souffrance, au corps docile qu'il avait tenu, qu'il avait serré dans ses bras et manié. Une femme qu'il pourrait arriver un jour à posséder toute s'il réussissait à se rendre indispensable à elle. Elle était là, souvent fatiguée, le visage vidé pour un instant de la préoccupation fébrile et joyeuse des choses inconnues qui faisaient souffrir Swann. Elle écartait ses cheveux avec ses mains. Son front, sa figure paraissaient plus larges. Alors, tout d'un coup, quelques pensées simplement humaines, quelques bons sentiments comme il en existe dans toutes les créatures, quand dans un moment de repos ou de repliement elles sont livrées elles-mêmes, jaillissaient de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt tout son visage s'éclairait comme une campagne grise, couverte de nuages qui soudain s'écartent pour sa transfiguration au moment du soleil couchant. La vie qui était en Odette à ce moment-là, l'avenir même qu'elle semblait rêveusement regarder, Swann n'aurait pu les partager avec elle. Aucune agitation mauvaise ne semblait y avoir laissé de résidu. Si rares qu'ils devinssent, ces moments-là ne furent pas inutiles. Par le souvenir, Swann reliait ses parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en or une Odette de bonté et de calme pour laquelle il fit plus tard, comme on le verra dans la deuxième partie de cet ouvrage, des sacrifices que l'autre Odette n'eût pas obtenus. Mais que ces moments étaient rares, et que maintenant il la voyait peu. Même pour leur rendez-vous du soir, elle ne lui disait qu'à la dernière minute si elle pourrait le lui accorder, car, comptant qu'elle le trouverait toujours libre, elle voulait d'abord être certaine que personne d'autre ne lui proposerait de venir. Elle alléguait qu'elle était obligée d'attendre une réponse de la plus haute importance pour elle. Et même si, après qu'elle avait fait venir Swann, des amis demandaient à Odette, quand la soirée était déjà commencée, de les rejoindre au théâtre ou à souper, elle faisait un bond joyeux et s'habillait à la hâte. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa toilette, chaque mouvement qu'elle faisait rapprochait Swann du moment où il faudrait la quitter, où elle s'enfuirait d'un élan irrésistible. Et quand enfin prête, plongeant une dernière fois dans son miroir ses regards tendus et éclairés par l'attention, elle remettait un peu de rouge à ses lèvres, fixait une mèche sur son front et demandait son manteau de soirée bleu ciel avec ses glands d'or, Swann avait l'air si triste qu'elle ne pouvait réprimer un geste d'impatience et disait « Voilà comme tu me remercies de t'avoir gardé jusqu'à la dernière minute, moi qui croyais avoir fait quelque chose de gentil. » C'est bon à savoir pour une autre fois. » Parfois, au risque de la fâcher, il se promettait de chercher à savoir où elle était allée. Il rêvait d'une alliance avec Forcheville qui peut-être aurait pu le renseigner. D'ailleurs, quand il savait avec qui elle passait la soirée, il était bien rare qu'il ne pût pas découvrir dans toutes ses relations à lui quelqu'un qui connaissait, fût-ce indirectement, l'homme avec qui elle était sortie et pouvait facilement en obtenir tel ou tel renseignement. Et tandis qu'il écrivait à un de ses amis pour lui demander de chercher à éclaircir tel ou tel point, il éprouvait le repos de cesser de se poser ces questions sans réponse et de transférer à un autre la fatigue d'interroger. Il est vrai que Swann n'était guère plus avancé quand il avait certains renseignements. Savoir ne permet pas toujours d'empêcher, mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles. Il était heureux toutes les fois où M. de Charlus était avec Odette. Entre M. de Charlus et elle, Swann savait qu'il ne pouvait rien se passer. Que quand M. de Charlus sortait avec elle, c'était par amitié pour lui, et qu'il ne ferait pas difficulté à lui raconter ce qu'elle avait fait. Quelquefois, elle avait déclaré si catégoriquement à Swann qu'il lui était impossible de le voir un certain soir. Elle avait l'air de tenir tant à une sortie que Swann attachait une véritable importance à ce que M. de Charlus fût libre de l'accompagner. Le lendemain, sans oser poser beaucoup de questions à M. de Charlus, il le contraignait, en ayant l'air de ne pas bien comprendre les premières réponses, à lui en donner de nouvelles. Après chacune desquelles, il se sentait plus soulagé, car il apprenait bien vite qu'Odette avait occupé sa soirée aux plaisirs les plus innocents. « Mais comment, mon petit mémé ? Je ne comprends pas bien. Ce n'est pas en sortant de chez elle que vous êtes allé au musée Grévin ? Vous étiez allé ailleurs d'abord. Non ? Oh, que c'est drôle ! Vous ne savez pas comme vous m'amusez, mon petit mémé. Mais quelle drôle d'idée elle a eue d'aller ensuite au chat noir. C'est bien une idée d'elle. Non, c'est vous ? C'est curieux. Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle devait y connaître beaucoup de monde. Non ? Elle n'a parlé à personne ? C'est extraordinaire. Alors vous êtes restés là comme cela tous les deux, tout seuls ? Je vois d'ici cette scène. Vous êtes gentil, mon petit mémé, je vous aime bien. Swann se sentait soulagé. Pour lui, à qui il était arrivé en causant avec des indifférents qu'il écoutait à peine, d'entendre quelquefois certaines phrases. Celle-ci, par exemple. « J'ai vu hier Madame de Crécy. Elle était avec un monsieur que je ne connaissais pas. » Phrase qui, aussitôt dans le cœur de Swann, passait à l'état solide, s'y durcissait comme une incrustation, le déchirait, n'en bougeait plus. Qu'ils étaient doux, au contraire, ces mots. Elle ne connaissait personne, elle n'a parlé à personne. Comme ils circulaient aisément en lui, qu'ils étaient fluides, faciles, respirables. Et pourtant, au bout d'un instant, il se disait qu'Odette devait le trouver bien ennuyeux, pour que ce fussent là les plaisirs qu'elle préférait à sa compagnie. Et leur insignifiance, si elle le rassurait, lui faisait pourtant de la peine comme une trahison. Même quand il ne pouvait savoir où elle était allée, il aurait suffi pour calmer l'angoisse qu'il éprouvait alors et contre laquelle la présence d'Odette, la douceur d'être auprès d'elle était le seul spécifique, un spécifique qui à la longue aggravait le mal avec bien des remèdes, mais du moins calmait momentanément la souffrance. Il aurait suffi si Odette l'avait seulement permis de rester chez elle tant qu'elle ne serait pas là, de l'attendre jusqu'à 7 heures du retour, dans l'apaisement de laquelle seraient venues se confondre les heures, qu'un prestige, un maléfice lui avait fait croire différente des autres. Mais elle ne le voulait pas. Il revenait chez lui. Il se forçait en chemin à former divers projets. Il cessait de songer à Odette. Même, il arrivait, tout en se déshabillant, à rouler en lui des pensées assez joyeuses. C'est le cœur plein de l'espoir d'aller le lendemain voir quelque chef-d'œuvre qu'il se mettait au lit et éteignait sa lumière. Mais dès que pour se préparer à dormir, il cessait d'exercer sur lui-même une contrainte dont il n'avait même pas conscience tant elle était devenue habituelle, au même instant, un frisson glacé refluait en lui et il se mettait à sangloter. Il ne voulait même pas savoir pourquoi. S'essuyait les yeux, se disait en riant « C'est charmant, je deviens névropathe ». Puis il ne pouvait penser sans une grande lassitude que le lendemain il faudrait recommencer de chercher à savoir ce qu'Odette avait fait, à mettre en jeu des influences pour tâcher de l'avoir. Cette nécessité d'une activité sans trêve, sans variété, sans résultat, lui était si cruelle, qu'un jour, apercevant une grosseur sur son ventre, il ressentit une véritable joie à la pensée qu'il avait peut-être une tumeur mortelle, qu'il n'allait plus avoir à s'occuper de rien, que c'était la maladie qui allait le gouverner, faire de lui son jouet jusqu'à la fin prochaine. Et en effet, si à cette époque il lui arriva souvent, sans se l'avouer, de désirer la mort, c'était pour échapper moins à l'acuité de ses souffrances qu'à la monotonie de son effort. Et pourtant, il aurait voulu vivre jusqu'à l'époque où il ne l'aimerait plus, où elle n'aurait aucune raison de lui mentir, et où il pourrait enfin apprendre d'elle si le jour où il était allé la voir dans l'après-midi, elle était ou non couchée avec Forcheville. Souvent, pendant quelques jours, le soupçon qu'elle aimait quelqu'un d'autre le détournait de se poser cette question relative à Forcheville, la lui rendait presque indifférente, comme ces formes nouvelles d'un même état maladif qui semble momentanément nous avoir délivrés des précédentes. Même, il y avait des jours où il n'était tourmenté par aucun soupçon. Il se croyait guéri. Mais le lendemain matin, au réveil, il sentait à la même place la même douleur dont la veille pendant la journée il avait comme dilué la sensation dans le torrent des impressions différentes. Mais elle n'avait pas bougé de place. Et même, c'était l'acuité de cette douleur qui avait réveillé Swann.